Octave Mirbeau, L'homme dans le grenier. Quand Clémenceau rentra du service, par une matinée d'hiver, tout crotté de boue du chemin, tout trempé de la pluie du ciel, il n'embrassa pas sa mère qui travaillait en l'attendant par son ouvrage de couture. Il ne s'informa pas de son père qui était au champ, ni de sa sœur, servant à la ferme des Lourdes. Et il s'assit près de la cheminée, sombre, sans prononcer une parole. C'était un grand garçon, maigre, gauche, avec des mains velues et de longs bras, pendants comme ceux des gorilles. Il avait un front très bas, mangé par de rudes cheveux noirs, et ses yeux étranges, dont le regard semblait être ailleurs, toujours. La mère considéra son fils toute saisie de le trouver ainsi. « C'est bien toi, Clément ?» demanda-t-elle. « Quoi que t'as dit, Clément ? Pourquoi que tu me dis rien ? Pourquoi que t'es si changé ? Est-ce qu'on rentre comme ça chez ses parents, sans seulement leur faire mignon ? Es-tu malade ? T'as donc pas faim ?» Clément se retourna sur sa chaise, poussa une sorte de bestial grognement, puis tout à coup, il se leva et se dirigea vers la porte. « Où que tu vas ?» dit sa mère. « Où que tu vas ? Déjà ?»« Ben, je vais où je vais, » répondit Clément avec colère. « Fiche-moi la paix !» Et la mère sourde, relevant ses bras au ciel, soupira. « Si c'est Dieu possible !»« Et quoi qu'on lui a fait à mon garçon pour me le rendre comme ça ?» Clément sortit, s'acheminant vers le village, entra au cabaret tout droit. « Tiens, c'est Clément !» s'écrièrent quelques buveurs, ouvriers, attablés autour d'une bouteille de vin. « Eh bien, tu vas boire avec nous, Clément. Nous allons arroser ton retour. Allez, viens donc avec nous, camarades !» Il ne les regarda même pas, choisit une table éloignée des buveurs, et il écoute sur la table, les yeux brillants, ses narines battant au souffle d'alcool dont la pièce était pleine. « De l'eau de vie » commanda-t-il. Il ne rentra chez ses parents que le soir, très tard et ivre-mort. Chaque jour se passa de la même façon. Les reproches, les scènes, les menaces furent impuissants à changer la conduite de Clément. Il ne répondait pas, n'avait même pas l'air d'entendre, et brusquement il quittait la maison pour aller s'enfermer au café. Et quelquefois, en rentrant la nuit, il trouva la porte close, les fenêtres barricadées. Alors il s'abattait en travers de seuil et s'endormait, la face dans ses ordures. Au bout d'une semaine, le père lui dit « Mais nous ne pouvons plus te garder à rien faire. Nous n'ayons pas notre argent pour que tu le boives. Tu travailleras ou tu t'en iras. Tu t'en iras, diable !»« C'est bon, » fit Clément. Il partit et ne rentra plus. La mère l'attendit vainement. À l'insu de son mari, souvent le soir, elle déverrouillait la porte afin que son fils puît trouver la maison ouverte si l'idée lui venait de rentrer quelques nuits. Mais Clément ne rentra pas. Un mois s'écoula. On n'avait plus revu Clément, on n'avait plus entendu parler de Clément. « Où qu'il a pu aller ?» demandait la mère. « Il est peut-être mort. » Et tout de même, s'il est mort, ça serait pas bien de l'avoir renvoyé de chez nous. Tant mieux, s'il est mort, répondit le père. C'est un bon débarras. Nous ne pouvons pas regarder mourir un flanc feignant pareil. Nous aurons grugé ce feignant-là. Mais c'est tout de même notre fils, hasarda la mère, qui hochait la tête tristement. Notre fils, cria le père. Eh bien après, il n'y a pas de fils qui tienne. D'abord, un fils, c'est un qui travaille et qui gagne sa vie, voilà. Il allait pourtant se préoccuper de la disparition de Clément. Il fallait le faire. Alors on s'informa auprès des uns, auprès des autres. Personne ne l'avait vu nulle part. Nulle part. Aucun, ni dans le bois, ni sur les routes, ni dans les auberges, ne l'avait rencontré. La mère, un peu plus pâle maintenant, disait avec des pleurs dans les yeux, il se sera peut-être pendu dans quelque coin du bois. À quoi le père répondait sans émotion, faisant le geste de quelqu'un qui perd pied dans les eaux profondes. À moins qu'il soit peut-être noyé dans quelque trou de la rivière. Et il concluait, eh ben, qu'il se noie, c'est son affaire, c'est pas la nôtre. On fouilla la campagne, le bois, les carrières de Marneuil, dont les gueules se dénoncent au loin sous terre. On sonda la rivière. Les gendarmes commencèrent d'inextricables enquêtes qui n'aboutirent qu'à de crapuleuses ribottes dans des bouchons. Le parquet poursuivit une même instruction qui n'aboutit à rien. Nulle part, nulle trace de Clément. Clément avait disparu du pays comme s'évanouit dans l'air une fumée. 2 mois, 3 mois, 6 mois s'écoulèrent. Depuis longtemps, il n'était plus question de Clément. La curiosité des premiers jours avait été vite épuisée. D'autres événements bien plus importants, bien plus extraordinaires, bien plus incompréhensibles, remplaçaient, renouvelaient, décuplaient l'agitation d'un instant produite dans les villages et les hordes d'alentour par la fuite de Clément. Quelque chose d'inouï, de mystérieux, de diabolique planait sur la contrée. Une fatalité terrible semblait peser sur chaque maison. Une malédiction entrait par chaque porte. Et depuis le jour où Clément avait disparu, il était venu à l'esprit de personne d'établir une corrélation entre ces deux faits. Toutes les nuits, des vols étaient commis, d'abord discrets, puis audacieux. Ils tournaient maintenant à la dévastation générale. On volait les volailles, on dévastait les clapiers, des chiens, des moutons furent dérobés, des porcs disparurent. Le père sourd, qui chaque année élevait une douzaine d'oies pour les vendre grâce à Noël, les vit s'en aller une à une, et ses 6 poules pondeuses de la mère sourde. Il ne resta pas un matin que 3 plumes dans le poulailler, vide. Les débitants de boissons constataient aussi qu'il leur manquait des litres de vin et des cruchons d'eau-de-vie. Riche comme pauvre, personne n'était épargné. On n'en citait aucun qui n'eût à se plaindre du vol. Mais c'était surtout à la ferme de Ourde que ces ravages étaient grands. Poulets, dindes, pintades, canards fondaient littéralement la basse-cour qui se dépeuplait de ses hôtes. Chaque chose inexprimable et qu'on n'avait jamais vue. Les vaches avaient leurs mamelles taries quand dès l'aube les filles d'étable allaient les retraire. Chose plus stupéfiante encore, on trouva dans les herbages des bœufs abattus dont il ne restait que la carcasse. Mais où donc, qui donc voulait et tuait ainsi? On avait d'abord accusé de ces crimes les rôdeurs, les vagabonds, les bohémiens, qui tout le jour et toute la nuit se succèdent en effrayantes files sur la grande route de Paris, séparés du village par quelques 100 mètres de prairie à peine. Chacun faisait bonne garde. Étaient-ce des loups, des fauves échappés d'une ménagerie foraine? Les braves se cachaient, armés d'attaques d'arbres flingots autour des demeures dans les fourrés. Mais on n'avait pris personne. Rien d'insolite ne troublait la science ni le silence coutumier des vergers et des champs. Et les vols et les massacres augmentaient en audace et en nombre. Alors, devant cette énigme, les imaginations s'étaient affolées. Un miracle seul pouvait détourner du pays hanté et maudit cet invincible et ce surnaturel ennemi. Il n'y avait plus que Dieu qui fût capable de vaincre cet insaisissable démon. On fit des neuvaines, on organisa des processions. Et le soir, de même que pendant les éphémérides épidémies du choléra, on alluma de vrais feux pour brûler les esprits malfaisants qui rôdaient sûrement dans l'air. Et pendant ce temps-là, la mère sourde, très triste, se disait en joignant les mains, « Est-ce que c'était Clément ou bien son âme ?» La fille sourde, servante à la ferme des Ourdes, monta dans un grenier qui servait de réserve pour la paille. Elle n'avait pas fait 2 pas sur le plancher mou que, soudain, devant elle, elle vit une botte de paille remuée, se détacher du lot, tourner comme une personne, s'abattre à ses pieds, et dans ce trou d'ombre noir que la boue avait ouvert en tombant, apparaître une horrible figure, un surhumain, terrifiant paquet de cheveux et de barbe, poussé au milieu duquel luisaient 2 yeux de bête féroce et saignait une bouche hideuse de cauchemar. Elle voulut fuir, elle voulut appeler, mais l'effroi de cette apparition fut tel qu'elle resta clouée sur le plancher, sans mouvement et sans voix. En même temps, dans un bond, dans un grognement rauque, elle se sentit empoignée, soulevée, entraînée dans quelque chose de très sombre, puis renversée sous un corps de diable qu'il étreignit à l'étouffer, à lui écraser la chair, à lui rompre les os. Et là, elle s'évanouit. L'endroit de cette scène était une sorte de caverne ronde, dont les murs étaient formés par des bottes de paille passées l'une sur l'autre, et un jour terne tombait du toit par une lucarne carrée, éclairait les choses sinistres dont il est malaisé de décrire l'horreur. C'était sur le plancher, autour du monstre en rute et de la fille évanouie, comme un ossuaire et même un charnier. Des quartiers de viande encore saignantes, des carcasses de têtes rongées, des peaux récemment écorchées, et pêle-mêle avec des ossements, des bouteilles cassées, des lambeaux de chair noire, des flaques de sang séchées, un prodigieux amas de choses gluantes et d'ordures, une intolérable et suffocante odeur de pourriture, de breuvage corrompu se levait de cet épouvantable chaos, de ce résidu des vols et des meurtres nocturnes qui avaient désolé le pays depuis plus de 6 mois. Et quand la fille sourde eut repris connaissance, meurtrie, brisée, presque morte, elle eut peine à se rendre compte de la réalité de son aventure, ainsi que du lieu d'épouvante où elle gisait. Que s'était-il passé? On ne le savait pas bien. Non, loin d'elle, accroupie sur un lit, d'innombrables fanges et d'eau putréfiée, le monstre déchiquetait de ses crocs aigus un lapin qu'il venait d'éventrer. Elle le considéra horrifié. Et des traits, jadis connus, se dessinèrent plus précis sur cette face sauvage. Et tout à coup, elle poussa un cri. « Clément, Clément, c'est Clément !» Clément tourna la tête. « Hé, hé, hé » grogna-t-il. Puis un sourire grimaça dans l'emmêlement de sa barbe sanglante, tandis que de sa bouche encore immobile, un lambeau de chair filamenteux pendait comme à la gueule d'un fauve.